Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Propulsé par mademoiselle.com.
Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Sors le Popcorn.
Oui, Sors le Popcorn épisode 3. Oui, oui, oui.
Je suis Alix Martineau et je suis accompagnée de Mimi.
Bonjour, bonjour, bienvenue, bonsoir.
Merci beaucoup de nous écouter. Sors le Popcorn, c'est donc le podcast ciné-série de Mademoiselle qui sort un mercredi sur deux pour les sorties ciné. Et le spécial série sort le dernier vendredi du mois.
Oui.
Donc vous avez déjà pu écouter l'épisode spécial série The Good Place qui en fait du coup le troisième Sors le Popcorn qui va parler du film Retour à Zombieland qui sort aujourd'hui au cinéma.
Tout à fait. Et donc avant ça, on va faire un petit point sur ce qu'on regarde en ce moment pour vous faire des petites recos car vous aimez ça. Et aussi, donc on le rappelle, il y a toute une partie de ce podcast qui est sans spoiler, donc vous pourrez écouter tranquillement. On va peut-être spoiler un peu le premier Bienvenue à Zombieland 2009, mais on préviendra à la limite. Mais bon, il y a des zombies, voilà, spoiler. Et surtout, il y aura une vraie alerte spoiler quand on commencera à spoiler Retour à Zombieland. Donc si vous n'avez pas encore vu Retour à Zombieland, vous pourrez mettre pause et revenir plus tard pour écouter nos avis passionnant et très pertinent sur cette suite très attendue finalement.
Merci beaucoup. Du coup, Mimi, qu'est-ce que tu regardes toi en ce moment alors que tu voudrais conseiller ?
Alors, ça va être une reco. J'hésitais entre deux recos parce que je regarde pas souvent des films dans ma vie, mais enfin, pas souvent. Pas toutes les semaines, mais cette semaine, j'en ai vu deux. Donc j'étais là, que choisir ? Un film du Marvel Cinematic Universe ou un film un peu genre années 50 en noir et blanc qui va me permettre de me faire mousser, genre ok, je suis cinéphile. Du coup, je vais vous parler évidemment du film des années 50 en noir et blanc. Car j'adore. Ce week-end, j'ai vu pour la première fois 12 hommes en colère, un film de Sidney Lumet qui est sorti donc à la fin des années 50. Et le pitch, c'est donc c'est un jury, c'est pour ça que c'est 12 hommes, et ils sont en train de délibérer pour une affaire d'un jeune homme est accusé d'avoir tué son père. C'est à New York et ça a l'air vraiment genre case closed quoi. Tout le monde veut voter coupable. T'as eu toute la procédure avant le film où apparemment il y a plein de preuves, il y a plein de témoins. Enfin, il y a 4 personnes différentes qui l'ont vu buter et tout. C'est genre évident. Et donc, le jury doit voter, et c'est un truc où ils doivent avoir l'unanimité. Donc, c'est soit tout le monde dit coupable et il va à la chaise électrique, en plus, donc il a peine de mort. Soit tout le monde dit non coupable, ou alors ils font ce qu'on appelle un hung jury, donc ils disent on n'arrive pas à se mettre d'accord, et à ce moment-là, il y aura un nouveau procès. Et en fait, donc c'est 12 hommes new-yorkais des années 50, tous en chemise. Alors, c'est marrant parce qu'il y a tout un plot du film. En fait, ils mettent en avant le fait que c'est la journée la plus chaude de l'année. Donc, il fait très très chaud, le ventilateur marche pas, ils sont enfermés dans cette petite pièce et tout.
Angoisse.
Mais comme c'est les années 50, ils sont tous en chemise, manches longues, avec des vestes et tout. Ils sont là, il fait hyper chaud. Mère Marcel, la solution à ton problème est simple. Tu sais, moi, quand c'est la canicule, genre, je mets le moins de tissu possible.
Bah,
et eux,
oui,
ils sont là avec des pantalons lourds en tweed et tout. À l'époque, les hommes savaient s'habiller.
Oh,
hein.
Bah, ça.
Pas comme maintenant, ils sont peu de Bermuda dans ce film. Mais bon, voilà.
Y a pas et de crop top pour men.
Non, très peu. Et ils ont donc il y a pas de femme dans ce film, ce qui est pas forcément gênant, mais c'est bien à dire parce que c'est quand même de plus en plus rare, heureusement, de voir des films où il y a zéro femme, et là il y en a vraiment zéro à l'image jamais, et parce que c'est que des hommes dans le jury et c'est un homme l'accusé qu'on voit très peu, on a juste un plan sur l'accusé au tout début et c'est tout. Et donc ils arrivent dans cette pièce, ils ont tous envie d'en finir vite, tu vois, ils sont là, c'est clair, il est coupable, il fait hyper chaud, j'ai envie de rentrer, j'ai un match de baseball ce soir, salut. Et il y a un seul gars parmi les 12, donc parmi les 12 jurés, il y a un mec qui dit non coupable. Et ils sont tous là en mode, mais quoi, mais comment tu peux dire ça? T'as entendu la même chose que nous, genre, l'accusation était, genre, tight, enfin, il n'y a aucun doute, comment tu peux te douter? Et il dit, bah, je pense que je ne suis pas assez sûre pour envoyer un jeune gars de 18 ans à la chaise électrique, et j'aimerais qu'on prenne au moins le temps d'en parler, parce que là, c'est quand même, il s'agit d'une vie humaine, et si on se trompe, c'est grave, quoi. Et du coup, eh ben, ils sont tous en mode, bah, I guess, si Jean-Michel veut parler, on va parler. Et en fait, voilà, c'est le film est un huis clos, qui est juste dans cette salle de... Ça fait très théâtral, quoi. Et c'est juste dans cette pièce où il y a le jury et il faut qu'ils décident est-ce qu'ils vont voter coupable ou pas. Je ne vous dis pas évidemment la résolution, mais c'était trop bien. C'est vraiment, en fait, moi déjà j'adore les huis clos. Tout ce qui est huis clos, c'est une seule pièce, un seul espace. Et en fait, il y a un plan au début du film où on les voit dans la salle du tribunal et un plan à la fin où on les voit sortir. Et j'aurais limite préféré qu'il n'y ait pas du tout ces deux plans et que ce soit juste le film s'ouvre quand ils rentrent dans la pièce de délibération et ils se ferment quand ils en partent. Et c'est que du dialogue, en fait. C'est que des gens qui parlent. Et certes, c'est un vieux film, mais il a pas mal vieilli, dans le sens où, en fait, comme voilà, il n'y a pas besoin d'effets spéciaux ou quoi. Il y a quelques choix de mise en scène où c'est des plans très longs. Il y a des longues séquences qui sont peut-être un peu datées. Mais non seulement le film visuellement a pas vieilli, à part qu'il est en noir et blanc et que voilà, il est ancré dans son époque, donc tout le monde est en chemise, mais franchement j'ai passé un très bon moment. Et je sais qu'il y a un remake qui a été fait à la fin des années 90, et ce qui est intéressant, c'est que le remake actualise certains thèmes du film qui n'ont pas pris une ride non plus, puisque il y a tout un axe autour du fait que l'accusé n'est pas blanc et qu'il vient d'un quartier très populaire et tout, et du coup il y en a qui partent du principe qu'il est coupable juste parce que c'est un mec, alors on sait pas trop, mais il a l'air latino-américain, qui vient des bas-fonds de New York, et du coup ils sont là, mais vous connaissez ces gens-là, on sait comment ils sont et tout, donc c'est la justice sociale. Et je sais que dans le remake de la fin des années 90, que j'ai pas encore vu, ils ont diversifié un peu les personnages du jury, parce que là du coup c'est que des mecs blancs, et notamment ils ont mis un personnage afro-américain et tout, donc je pense que j'ai hâte de voir le remake pour voir comment ils ont un peu actualisé le propos. Mais au final, tu vois ce film des années 50, malheureusement tu pourrais faire le même aujourd'hui, à part qu'il y aurait peut-être des meufs dans le jury quand même, parce que c'est
peut-être des mecs.
6 hommes et 6 femmes en colère version paritaire. Mais voilà, c'était trop cool. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste de films à voir, parce qu'il est quand même considéré globalement comme un excellent film, un peu un monument du cinéma, avec des acteurs qui étaient vraiment des superstars à l'époque, notamment donc le fameux homme qui dit non coupable, c'est Henry Fonda, le père de Jane Fonda, et qui était un grand acteur de cette période. Donc voilà, c'est trop bien, mettez ça, et en fait, réussir à tenir en haleine avec juste du dialogue et juste des acteurs qui jouent bien, c'est quand même un tour de force. Donc 12 hommes en colère, c'est Marocco.
Ouais, c'est trop bien, mais je savais pas qu'il y avait eu un remake, tu vois.
Je crois qu'il y a eu un remake, il y a des adaptations théâtrales, parce que voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de matos. Et il me semble qu'il y a eu aussi un autre truc à la télé, enfin un téléfilm aussi, parce que tu peux faire beaucoup de choses avec ce concept d'un jury et une seule personne dans ce jury qui n'est pas d'accord, et ils ont besoin d'avoir l'unanimité. Et tu peux l'appliquer à plein de cas différents pour raconter des choses sur la société. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait plusieurs versions.
Puis surtout que la peine de mort est toujours autorisée.
Oui, dans certains états des États-Unis. Tout à fait.
Donc voilà. Très actuel finalement ce vieux film. Donc,
Et donc alors pour une fois je l'ai vu en physique, donc en DVD. Je ne sais pas, en fait j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé sur Netflix, j'ai trouvé sur Prime Video le remake des années 90. Je ne sais pas où est dispo le film des années 50 en légal en France, donc achetez le DVD, il doit vraiment pas coûter cher.
Ouais, je pense pas là, ça fait longtemps qu'il, existe.
C'est pas un Blu-ray genre qui vient de sortir quoi. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, Alix, aux gens cette semaine ?
Eh bien, écoute, moi, cette semaine, c'est une série que j'ai complètement bingée hier soir. Ça s'appelle Modern Love et c'est dispo sur Amazon Prime.
C'est une création Amazon Prime, il me semble.
C'est peut-être même une création Amazon Prime, ouais, exactement. Et donc voilà, en fait, j'ai découvert cette année plutôt une série que j'avais un peu ratée, enfin, que j'ai découvert un peu tard, qui s'appelle Easy. Et qui raconte vraiment des histoires d'amour contemporaines et ça se chaque épisode en fait change de couple et après tu les retrouves peut-être 3-4 épisodes plus tard s'il y a une suite à raconter ou pas, parfois tu les retrouves jamais, enfin voilà, mais ça se suit pas et donc c'est des épisodes différents sur chaque couple en fait. Et donc j'étais intriguée par Modern Love parce que c'est un peu la même chose en fait, c'est des épisodes qui sont uniques, il y a pas de suite, enfin pour l'instant moi j'en ai pas vu de suite, et donc chaque épisode est centré sur une histoire d'amour. Et en fait ce qui est intéressant avec Modern Love, donc c'est en fait une chronique du New York Times si je me trompe pas, qui est adaptée et un peu il y a un peu de fiction rajoutée, mais en fait c'est des histoires d'amour donc à New York, et c'est pas forcément des histoires d'amour amoureuses en fait, ça peut être des histoires d'amour entre par exemple, enfin sans vous spoiler hein, le premier épisode c'est l'histoire entre une jeune femme qui vient d'emménager à New York et son portier qui est très protecteur d'elle et qui regarde les hommes qui rentrent chez elle. Et enfin voilà, c'est assez marrant en fait, et c'est hyper authentique. Il y a des acteurs très très doués qui jouent dedans, donc notamment dans le premier c'est Christine Milotti que vous avez vu dans How I Met, ou enfin c'était la femme de How I Met,
la femme de Ted,
la femme
coup.
De Ted, oui. Et il y a
Dev Patel.
Dev Patel dans
j'ai
le
pas
deuxième
encore regardé
épisode.
Mais je sais qu'il y a Dev Patel. Donc il Dev est... Patel, c'est celui qui jouait dans Lion Skins. Il y a quelques années, ouais. Dans Skins, dans Slumdog Millionaire. Et alors, il faut le dire, il a fait une longue du bas de ouf. C'est-à-dire que dans Slumdog Millionaire, ouais. Il était vite fait cute. Et après, il a laissé pousser sa barbe et ses bouclettes. Et il a fait Lion et j'étais en mode... What? Okay. Et du coup, je sais qu'il y a Dev Patel là-dedans parce qu'au final, il fait pas tellement de trucs. Donc,
non,
je surveille un petit peu son actu car c'est rare de le voir. Mmh. Et je pense que c'est 40% de pourquoi j'ai envie de voir Modern Love qui a l'air très cool. C'est que bah, c'est cool de voir Dev Patel dans des rôles.
Non, mais oui, effectivement, il y a Dev Patel et d'ailleurs, il est très très cute parce que donc. Il a encore les cheveux longs, donc il a des cheveux juste incroyables. Il a son petit accent british, là, j'ai juste envie de... Oh, il est trop mignon. Et donc lui, donc c'est le deuxième épisode, et c'est, lui, c'est un jeune entrepreneur qui a créé son site de dating. Et donc,
il a lancé sa start-up.
Ouais, il a lancé sa start-up, et donc voilà, il a un entretien avec la journaliste du New York Times. Et à un moment, elle lui fait « Mais est-ce que vous avez déjà été amoureux ?» Et là, donc, il va raconter ce qui lui est arrivé. Enfin, voilà. Donc, c'est plein... En fait, c'est plein de petits... C'est comme des micro-films de Noël. Mais en fait, ça met trop du baume au cœur. En fait, toutes les histoires sont hyper choues, hyper originales et très authentiques parce que tu sens que c'est des gens qui l'ont vécu. Et la troisième épisode, c'est avec Anna Tawai qui joue un personnage super intéressant. Et vraiment, pour le coup, cet épisode, il vaut le coup. Et c'est... Ouais, c'est un des meilleurs pour moi. Et ce que j'ai trouvé intéressant au niveau de la réal, c'est que il y avait pas mal de recherches sur le ton, en fait, parce que tu peux pas à l'écran reproduire ce qui se dit à l'écrit et le ton, mm-hmm. Enfin voilà. Et du coup, dans la réalisation, on sentait une sorte de, enfin voilà, de volonté de reproduire le ton de ceux qui s'exprimaient dans cette chronique du Times. Du coup, ouais, franchement, j'ai trop kiffé cette série avec ma coloc. On l'a bingé, on était en mode. Avec nos plaids et nos thés.
Est-ce que c'est le genre de truc qui fait mal au cul quand t'es célibataire et que t'en as marre d'être célibataire, ou est-ce que c'est juste ça réchauffe un petit peu le cœur, tu vois?
Bah en fait, bon, je t'avoue, hier on en avait un peu marre d'être célibataire toutes les deux.
Il n'y avait pas Dev Patel en bas de chez vous, tout est chiant.
Voilà, c'est ça. Donc au début on était un peu là, non mais qui est comme ça quand t'es célibataire, jamais.
Ça, tu vas à New York, ça, les gens ils sont comme ça.
C'est ça, on avait l'impression que bon voilà, nous on était nuls à côté d'eux, mais en fait ça réchauffe tellement le cœur et c'est tellement cute, et enfin vraiment c'est pas ouais non ça fait trop du bien, vraiment. Okay. c'est trop une série trop chou et j'ai trop kiffé.
Écoute, j'avais déjà hâte de la regarder, ça m'a pas mal rehypé. Peut-être je ferai ça ce week-end. Juste pour noter, alors moi je l'ai pas encore vu, mais j'ai vu passer des articles. Il me semble que une des critiques qui est faite, c'est que pour une série qui s'appelle Modern Love, il y a pas beaucoup d'amour pas hétéro, oui. Ou d'amour enfin qui met un peu de diversité, quoi. Donc j'avais vu un article qui disait genre si Modern Love veut devenir vraiment moderne, s'il y a une saison 2, je crois qu'elle a été renouvelée d'ailleurs, dans la saison 2 il faudra voilà montrer le vrai amour moderne de 2019, qui n'est pas que entre un homme et une femme. Alors tu dis que c'est pas forcément de l'amour romantique,
en fait, c'est
mais
ça,
apparemment il
que...
y a pas d'histoire entre deux hommes ou entre deux femmes, tu vois, typiquement.
Ouais. Moi ça j'avoue, j'ai vu les 5 premiers épisodes parce qu'on a dit vas-y, il faut qu'on arrête de la regarder pour s'en garder un petit peu, quoi, parce que c'est vraiment des petits bonbons. Donc on a arrêté au 5e hier soir. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire d'amour homosexuel, enfin voilà. Mais en revanche, comme c'est des histoires pas forcément d'amour, en fait, de relations, oui, amoureuses, en fait, c'est ça de différent, par exemple, avec Izzy qui se concentre vraiment sur les histoires d'amour amoureuses. Et qui, elle, est très moderne dans ce sens-là du terme, où vraiment, c'est d'ailleurs une autre série que je recommande vraiment dans ce style-là, et c'est trop trop bien easy, c'est des super dialogues, c'est vraiment des... Ouais, ça va vraiment très très profond dans les relations et tout, c'est hyper intéressant.
Et ça, c'est sur Netflix, je crois que c'était une création
Netflix. Oui,
c'est
sur Netflix. Ouais, Izzy, c'est sur Netflix et il y a 3 saisons, il me semble.
Ok.
2 ou 3
saisons.
Voilà,
2 séries d'amour pour vous.
Voilà.
Pour ce mois de novembre.
L'amour.
Qui arrive, car tout le monde déprime en novembre, sauf moi, c'est mon anniversaire le 22. Envoyez-moi des DM, @mimihgl sur Instagram. Voilà. Est-ce qu'on passe à Zombieland ?
Eh bien, passons à Zombieland. C'est parti.
Zombieland.
Donc là, on va causer de Zombieland sans spoiler. On va probablement révéler des éléments de Bienvenue à Zombieland, le premier film qui est sorti à la fin des années 2000. Mais bon, c'est pas non plus un film. Enfin, vous voyez le pitch, c'est une comédie d'action dans un monde post-invasion de zombies.
Ouais, c'est ça.
Voilà, donc post-apocalyptique, où il y a des personnages qui n'ont rien en commun finalement, qui se retrouvent à traîner ensemble à la base pour survivre et puis qui finissent par bien s'aimer. Voilà. Donc toi, Alix, t'avais pas vu Bienvenue à Zombieland en fait?
Non, je n'avais jamais vu Bienvenue à Zombieland parce qu'en fait, moi, il faut savoir que je suis une énorme flippette de tout ce qui est film d'horreur et tout. Et les films de zombies, ça m'a pas fait envie jusqu'à il y a peu de temps en fait, où je m'y suis intéressée quand je suis allée voir un autre film de zombies récemment, mais j'en parlerai plus plus tard. Et donc j'ai regardé Bienvenue à Zombieland la veille
du jour où on a été voir Retour à Zombieland. Donc c'est intéressant parce que toi t'as enchaîné les deux. Moi j'ai vu Bienvenue à Zombieland quand il est sorti, je pense que je l'ai vu au ciné parce que j'aimais bien les films de zombies et alors je suis aussi une flippette. Mais juste j'aime bien la figure du zombie et ce que les films de zombies quand ils sont bien faits disent de notre société et tout, et j'avais vu que celui-là il avait l'air marrant, donc je me disais bon, ça doit pas, si j'ai tenu à des films horribles comme 20 jours plus tard, ça a l'air d'être fun Bienvenue à Zombieland, mais je pense que je l'ai quasiment pas revu depuis, donc je l'ai pas revu avant Retour à Zombieland, donc j'ai vraiment attendu les 10 ans pour aller voir la suite 10 ans après. Et toi t'as enchaîné les deux. Ouais. est-ce que t'as bien aimé Bienvenue à Zombieland, est-ce que t'as bien aimé cet univers et cet humour qui est quand même collé à des situations très dramatiques finalement.
Ouais, c'est ça. Bah en fait, donc comme tu disais, c'est l'histoire de gens qui se retrouvent confrontés à l'apocalypse en fait, puisque les zombies sont infectés. Mm-hmm. Voilà, c'est pas des morts vivants, c'est des zombies infectés. J'ai bien retenu
dans un épisode de LMK récent, le 63, je pense, qui s'appelle Coucou, tu veux voir ma quiche?
Exactement.
J'ai fait ma petite nerd des zombies en disant, alors il y a différents types de zombies, il y a les morts vivants, là c'est du surnaturel, ils sont décédés, ils reviennent. Donc là c'est compliqué, tu vois. Et il y a les infectés, c'est genre ils ont la rage, voilà. C'est tout. Alix a bien retenu
ma
leçon.
Du coup, j'ai bien retenu la leçon parce que du coup, ils sont infectés. Et
alors, cela dit, le fait qu'ils soient infectés, ça marchait dans le premier, puisque c'était juste après, c'était les débuts de l'apocalypse. 10 ans plus tard, ils devraient tous être décédés, du coup, les zombies. Ils devraient pas, mais bon, ça, c'est le propre des films de zombies, surtout quand ça se passe longtemps après l'apocalypse, en tout cas l'invasion ou l'épidémie, c'est que s'il y a plus de zombies, il y a plus de films, donc tu triches avec la physique et la biologie pour avoir toujours des zombies très en forme, malgré le fait que qu'est-ce qu'ils bouffent, qu'est-ce qu'ils s'hydratent, tu vois, ils prennent des coups de soleil.
On ne sait pas.
Ils pourrissent quand même globalement, mais bon, il faut quand même qu'on ait des trucs qui cavalent, sinon c'est pas marrant. Donc il y a toujours des zombies 10 ans après.
Spoiler.
Alors, Retour à Zombieland, c'est trop bien, ils reconstruisent le monde, ils plantent des patates, trop sympa. Ça aurait été drôle, cela dit.
Mais du coup, moi, vraiment, j'ai vu le film la veille, j'ai ri parce que vraiment c'est un film cocasse.
C'est le mot.
Non mais c'est vrai, je trouve que c'est un film marrant mais qui est bien 2009, tu vois, c'est vraiment le genre de film qu'on regardait quand j'étais ado, tu vois, 2009, ouais, j'avais 14 ans. On regardait ça quand j'étais ado, c'était du bon humour bien américain. Voilà.
Ouais, c'est pas spécialement gras,
non.
American Pie ou quoi, mais c'est très américain comme humour, et c'est vraiment un film à popcorn ou à hot dog où tu t'installes, tu te prends pas la tête, tu rigoles avec tes potes, t'as peut-être une ou deux répliques cultes que tu vas garder. Donc dans Zombieland, il y a tout ce système de règles que le personnage joué par Jesse Eisenberg, qui était plutôt le héros du premier, un peu moins dans le deuxième, il l'a, et c'est parce que c'est un genre de gros nerd anxieux dans la vie et qui survit en fait à l'apocalypse zombie en faisant une to-do list de règles à laquelle il doit pas déroger. Et du coup, il y a plein d'éléments dans ce film qui sont mémorables et qui font que 10 ans après, les gens se rappellent déjà de Bienvenue à Zombieland et sont intéressés par la suite. Parce que, en soi, tu fais la suite d'une comédie d'il y a 10 piges, déjà c'est hyper risqué. Et il y a plein de gens qui l'auront oublié si elle n'est pas restée dans les mémoires, quoi. Mais là, je pense que Zombieland, il y a un bon attrait. Je pense que les gens ont envie de voir Retour à Zombieland.
Mais c'est surtout que c'était marrant de se dire... 10 ans plus tard, donc ces trois acteurs qui sont au centre un peu, enfin il y en a 4 qui sont au centre de l'histoire, qui sont Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg et Abigail Breslin, ont eu une carrière entre temps, quoi.
Bah Emma Stone, La La Land quand
et
même.
Emma Stone a fait La La Land.
Birdman et tout, tu sais,
la
genre
favorite. C'est ça. Woody Harrelson, il est resté Hunger Games.
Il a quand même fait No Yosemite et tout. En fait, il fait des blockbusters, Woody Harrelson, mais c'est des gros blockbusters, quoi. C'est pas des films d'auteur comme.
Il a quand même fait True Detective.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
Ah oui.
Donc il a un petit côté quand même où il sait jouer quoi. Enfin c'est
oui,
pas.
Oui, il sait jouer et c'est vrai qu'il fait beaucoup de gros films, mais ça veut pas dire que c'est des mauvais films. Et Jesse Eisenberg, bah il a fait The Social Network entre temps. Ouais. Il a fait un film. Il a fait un film trop chelou qui s'appelait The Double. Où là pour le coup c'était vraiment un full film d'auteur où genre c'était lui, il prenait le bus et il se voyait lui-même, c'était un peu comme Enemy avec Jake Gyllenhaal.
Ah oui, tu
vraiment, je l'ai regardé dans l'avion, j'ai rien bité, j'étais là quoi, mais c'était bien. Donc quand même une... et oui, il a fait donc Insaisissable qui est le titre français de No You See Me. J'oublie toujours qu'il a que ce film a un titre français, c'est le film avec des magiciens qui font des braquages. Oui. Ma passion, des magiciens qui font des braquages.
C'est vrai.
Où il y a aussi Woody Harrelson qui joue à un mentaliste, oui, d'ailleurs. Donc ils se sont retrouvés là-dedans. Mais oui, entre 2009 où bon, Woody Harrelson avait déjà de la bouteille, les autres étaient pas débutants, mais ils étaient beaucoup moins avancés dans leur carrière. Abigail Breslin, elle sortait de Little Miss Sunshine, donc ouais, elle avait déjà percé. Elle avait, je sais pas, elle était ado quoi.
Elle avait 11 ans ou 12 ans. Ouais.
Là, elle a bien grandi.
Elle a bien grandi. Ouais.
C'est peut-être celle qui a eu le moins de carrière finalement entre temps. Mmh. Elle est un peu dans ce spot chelou où voilà, elle a la vingtaine. Elle est, c'est triste à dire, mais bon, c'est Hollywood. Elle est pas spécialement bonne. Elle est pas assez bonne pour être prise juste parce qu'elle est bonne physiquement, je veux dire. Après, en termes de jeu, moi, je l'ai pas vue depuis longtemps, donc je vais pas juger là-dessus. Mais on l'a un peu perdue. Elle est un peu hors radar. Et là, elle revient dans Zombieland. Mais c'est en soi, j'ai vu une interview. Tous les acteurs étaient hyper chauds pour faire une suite. Ils étaient vraiment en mode, mais on signe quand ? Enfin, franchement, mais... n'importe quand. Vous nous demandez, on aurait pu ne pas attendre 10 ans. On était chaud. Franchement, Emma Stone, tu fais La La Land et t'es là, mais tu sais quoi, ce qui me manque vraiment, c'est Zombieland en vrai, dans la vie.
Mais en vrai, moi, je peux comprendre, tu vois, qu'à un moment, t'en as marre de... C'est comme Jean Dujardin qui refait Un Brise de Nice, tu vois.
Ah oui, c'est vrai.
C'est un peu le même délire, quoi. C'est genre revenir à... Peut-être qu'ils s'entendent super bien, tu vois, et genre, il y avait une atmosphère sympa sur le tournage. Enfin, ça donne cette impression-là, quoi, que tu reviens
vraiment...
Oui, bah,
je pense qu'ils se sont amusés parce que en soi... Je pense que le film Retour à Zombieland, il va marcher. Je suis pas sûre qu'il va cartonner de ouf. Donc on peut pas vraiment dire ok, ils sont venus prendre leur chèque et se barrer, parce que c'est pas une suite comme un Star Wars ou quoi où t'es sûr que le monde entier va aller le voir. Je pense qu'il va avoir un bon succès, mais pas non plus dingue. Donc bah il fallait qu'ils aient une bonne raison de, il fallait qu'ils aient envie un peu de le faire, parce que je pense que sinon ils auraient juste pu dire en fait mec j'ai ma carrière, j'ai pas signé pour en faire un 2 10 piges plus tard quand il y a plus trop de films de zombies et qu'en fait. Bah, c'est un film qui est daté, qui est dans son époque, bienvenue à Zombieland, quoi. C'est vraiment un film des années, un film américain des années 2000. Donc, heureusement qu'ils avaient envie de le faire. Parce qu'au final, c'est plutôt fun, ce retour à Zombieland.
Et c'est ça, ouais, c'est ça. C'est, on a bien rigolé. Et en fait, vraiment, à la fin de Bienvenue à Zombieland, je me suis dit, comment ils vont y revenir, en fait? Enfin, parce que c'est retour à Zombieland, donc on les laisse à la fin. Donc, attention, je vais spoiler.
Bienvenue à Zombieland.
On les laisse à la fin. Bon bah voilà, ils ont niqué des zombies, mais ils partent en quête d'une
oui,
maison.
Oui, il y a pas de. L'épidémie n'est pas finie. Enfin, ouais, le monde est toujours niqué quoi. Donc ils n'ont pas forcément grand chose à faire. Ouais, enfin, ils n'ont rien à sauver à part continuer à survivre quoi.
Et du coup, le pitch donc de Retour à Zombieland, c'est donc ils habitent maintenant dans la Maison Blanche. Voilà.
Bah, quitte à squatter quelque part, autant squatter la Maison Blanche. Et ce qui tourne en oui, on s'est dit qu'on voulait construire un chez nous et du coup on a décidé d'aller vraiment chez nous, ce qui est déjà genre ultra américain mon gars.
Tellement américain.
Limite t'as le drapeau qui flotte et tout, tu vois, ils sont là, chez nous c'est l'Amérique, l'Amérique c'est la Maison Blanche.
Moi je sais pas, il y aurait des zombies chez moi, je me serais cassé vraiment
très
loin.
Moi je vais pas
aller miser,
frère, hein, y a trop de pièces et tout. C'est, je vais dans un truc où personne pensera, je vais, voilà, je vais chez ma mamie en Alsace, personne va venir.
Zéro zombie, parce que
il y a une rivière, il y a des arbres, il y a une cheminée, cool, tu vois, je vais pas me faire chier à la Maison Blanche. Mais eux, ils vont
à la Maison Blanche. Et donc, ils ont construit une sorte de muraille tout autour, donc ils sont complètement protégés, ils ont toutes les armes dont ils ont besoin, et en fait, ils ont, au fur et à mesure du temps, découvert qu'il existait une hiérarchie dans les zombies.
Oui, c'est, voilà, il y a différents types de zombies, et les zombies ont évolué par rapport à ceux du premier, qui étaient grosso modo un peu tous les mêmes, quoi. Donc il y a différents types de zombies, plus ou moins dangereux. Il y en a des vraiment pas dangereux parce qu'ils sont plus
débiles.
Bêtes que les autres, et ils sont vraiment débiles, ils suivent les papillons, quoi. Et il y en a des très très dangereux, et encore plus dangereux, et tout. Donc ça, ils le présentent dès le début du film, de « Ok, ça fait 10 piges, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui va faire que ce film n'est pas exactement le même que le précédent ?» Les zombies ont un petit peu changé, et aussi on vit à la Maison Blanche. Donc,
voilà.
Et du coup, bah après, c'est plutôt en fait une histoire, mais comme le premier, le pitch du film, c'est pas vraiment les zombies ou la survie, parce que c'est pas un film de survie, il s'intéresse pas à... Mais le premier non plus, il s'intéresse pas à, ok, ça fait 10 piges, les munitions, comment elles sont en bon état,
exactement,
comment tu
manges, c'est ce qu'on se posait comme question.
Le courant et tout, enfin, t'as 2-3 phrases en mode, oh, c'est fou qu'on ait toujours l'électricité, oui, c'est pour ça, et tu fais, ok, vous avez vite fait bosser votre truc, mais pas trop. C'est un film sur les rapports humains, et le cœur du film, c'est que t'as ces 4 personnages qui, à la base, n'ont rien en commun et n'ont pas envie de traîner ensemble dans le monde normal, qui se retrouvent forcés de traîner ensemble et qui deviennent un genre de famille un peu dysfonctionnelle, un peu fucked up, mais avec quand même une forme d'amour et d'affection dedans. Et du coup, bah, le pitch du deuxième, c'est après 10 ans à vivre ensemble dans ce format familial atypique, est-ce qu'on se supporte encore? Est-ce qu'on n'a pas envie d'autre chose? Est-ce que ça va être ça notre vie pour jusqu'à la fin, tu vois? Parce que bah, du coup, il n'y a pas vraiment de perspective d'avenir à Zombieland. Et bah, c'est un film sur les personnages plus que sur les zombies, quoi.
Oui, bien sûr. Et donc, il y a des nouveaux personnages aussi dans celui-ci. Il y en a une, alors comment elle s'appelle, la blonde?
Parce que donc, ils ont tous des noms de l'endroit d'où ils viennent. Elle s'appelle Woody Harrelson, c'est Tallahassee, Jesse Eisenberg, c'est Columbus, Emma Stone, c'est Wichita, Abigail Breslin, c'est Little Rock, et dans les nouveaux personnages, on a notamment Madison, qui est jouée par Zoe Dutch,
voilà,
qui est une blonde...
Écervelée.
Ouais, un peu à la Paris Hilton, ouais, en full jogging rose, avec des gros seins très sexualisés et bêtes en même temps.
Ouais.
Donc un personnage bah, plutôt
2009.
Voilà. Et on a oui, Rosario Dawson aussi, qui est une actrice que je connais mieux pour le coup, qui joue Nevada. Et après au casting, il y a Luke Wilson et Thomas Middleditch qui se rajoutent par rapport au premier. Voilà, en gros. Mais bon, c'est pas un film où il y a tellement de personnages au final, puisque, ouais,
puisque
on se concentre vraiment sur la bande du premier, quoi. Est-ce que t'as bien aimé Retour à Zombieland?
Bah écoute, moi j'ai bien aimé. J'ai bien rigolé, j'avoue. Ça m'a vraiment transporté, bah... En 2009, enfin vraiment, en fait, ça fait un peu une petite capsule, quoi. C'est vraiment le même humour. J'ai trouvé que c'était,
oui, on dirait limite. Alors à part bien sûr que les acteurs ont vieilli, mais on dirait limite qu'ils les ont tournés dos à dos et qu'ils ont dit vas-y, celui-là on le met au frigo pour 10 ans et on le ressort dans 10 ans, quoi.
Et c'est moi, en les voyant, même ton, c'est ça.
Là, enfin visuellement, ça se ressemble et tout. En plus, toi, du coup, t'as vu les deux films, enfin deux jours de suite, quoi.
Ouais.
Donc tu l'avais vraiment frais le premier en tête et. C'est vraiment la suite.
C'est vraiment la suite, c'est vraiment les mêmes blagues, c'est le même délire américain où voilà, tu prends les gros guns puis tu tires sur tous les zombies. Voilà, on adore. Et puis bah oui, écoute, on a bien rigolé, hein. Enfin, je sais pas,
oui,
ce que t'en penses.
On l'a vu ensemble, du coup, on a passé un bon moment. Alors, faut quand même faire un petit big up car on était en projection presse. C'est comme ça qu'on peut sortir l'épisode le jour où le film sort en salle, hein. C'est qu'on l'a vu un peu en avance. Et dans notre projection presse, qui était un vendredi à 10h du mat, il y avait pas grand monde. Le film, il y avait déjà eu plusieurs projections et tout. Et il y avait un journaliste qui passait sa meilleure vie, la meilleure matinée de son année. Il rigolait à toutes les blagues. Il était juste.
Mais la gorge déployée,
mais
quoi.
Mais ouais, tu sais, il était là. C'est génial. Il était le rang devant nous. Et du coup, c'est vrai qu'il nous a aussi mis l'ambiance, quoi. Je pense que c'est ce genre de comédie où faut aller la voir idéalement assez vite dans une grande salle avec plein de monde, avec du pop-corn, des gens qui se tapent des barres. Parce que si tu la regardes tout seul sur ton ordi, tu vois, tout seul chez toi, tu vas pas forcément genre rire aux éclats, même s'il y a des bonnes vannes. Mais c'est vraiment un film un peu, alors. C'est un bien grand mot, mais ouais, un peu fédérateur, quoi. Ouais. Tu le regardes avec des potes, tu bois une bière et t'es content. Donc,
c'est vraiment un film de potes, ouais.
Big up à ce journaliste qui a été notre pote pendant cette séance. On ne lui a pas parlé, on ne sait pas qui c'est, mais il nous a aidé à passer un bon moment, en tout cas, parce que bah, il mettait l'ambiance, quoi.
C'est ça. Et puis, tu vois, genre tout ce personnage, en fait, qui au début m'a un petit peu dérangé, le personnage de Madison.
Où, donc la blonde un peu.
Donc
nunuche,
la blonde,
quoi.
Voilà, nunuche. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fout là? Enfin, vraiment, je comprenais pas pourquoi il faisait revenir cette figure du coup de 2009 qui n'était pas dans le film de 2009 pour le coup de Zombieland, mais qui était une figure de 2009 qui traînait dans tous ces films-là. Et là, il la ressort ici en 2019 et j'étais
il
là.
Il la ressort littéralement du congélo puisqu'elle vit dans une chambre froide dans le film au début.
Ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être ça en fait. C'est juste qu'elle était au congélo.
Non, mais c'est vrai qu'elle aurait pu être vraiment très... Alors, je dis pas que c'est le meilleur personnage de l'année, mais j'ai eu peur en la voyant arriver,
ouais,
quoi.
Aussi.
Parce qu'elle est en... Voilà, elle a les seins qui débordent, elle est hyper sexualisée, limite si elle a pas une choupa chouse dans la bouche, tu vois, elle veut sauter sur tout ce qui bouge, et je suis là... Mais en même temps, elle est bête, tu vois, genre, elle est très clairement bête, donc j'étais en mode, ok, on a quand même en 2019, les gars, on a un peu évolué. Et au final, son personnage est pas si bête, et il m'a pas tellement dérangé, quoi. J'avais peur qu'elle prenne trop de place et que ça devienne un peu, ok, c'est l'histoire de cette meuf. Et en fait, je trouve qu'elle est raisonnablement utilisé dans le film, t'as pas le temps d'en avoir marre d'elle, quoi. Donc, ça va. Ouais, c'est pas, je vous dis pas, c'est le personnage féminin de la merde. Mais ce film ne passe pas le test de Bechdel. Clairement pas.
Non,
clairement mais, est-ce que les gens savent? Peut-être je précise. Le test de Bechdel, c'est une théorie féministe inventée par Alison Bechdel, d'où le nom. Et en fait, alors c'est pas un critère de est-ce qu'un film n'est pas sexiste ou pas, hein, pas du tout. Mais c'est une façon intéressante d'interroger la place des personnages féminins au cinéma. Puisque pour qu'un film passe ce qu'on appelle le test de Bechdel, il faut qu'il y ait deux personnages féminins qui parlent entre elles pendant plus d'une minute d'un sujet qui n'est pas un homme. Et c'est pas si simple. Il y a vraiment beaucoup de films qui ne passent pas. Alors, soit des films comme 12 hommes en colère où il n'y a juste pas de meufs, soit des films où il y a une seule meuf, soit des films où il n'y a que des meufs mais qui ne font que parler d'hommes. Je pense que tu prends un film Sex and the City, je suis pas sûre qu'il passe le Bechdel test alors que bah, y a beaucoup de meufs. Et là, bah, dans Zombieland, il y a plusieurs meufs puisqu'il y a donc toujours le personnage d'Emma Stone, le personnage de Abigail Breslin, Madison qui est un nouveau personnage féminin et le nouveau personnage joué par Rosario Dawson. Mais je pense qu'il ne passe pas du tout le test de Bechdel puisque quand les femmes parlent entre elles, c'est des hommes, globalement, du film qu'elles causent. Donc voilà, je vous dis pas que c'est un film féministe ou que Madison est un personnage féministe, mais c'était moins pire que ce que je craignais, en tout cas. Et j'ai passé aussi un bon moment, c'est vraiment c'est ça. Si t'as aimé Zombieland en 2009, et que t'es prête à te remettre un peu dans ce mindset, tu vois, ce qui veut pas dire oublie que t'as grandi depuis, mais en fait, ok, t'as envie de, comme tu dis, cette capsule temporelle, bah, regarde... Regarde Retour à Zombieland et tu passeras un bon moment, quoi.
Ouais, franchement, j'ai bien rigolé.
Et je pense que c'est important de le dire avant de passer à la partie spoiler. Comment dire ça? Ce film n'a pas évolué avec son temps. Ce film, c'est, voilà, on dirait qu'il a été écrit à l'époque et qu'ils l'ont juste tourné 10 ans après, mais sans changer le scénario. Donc si vous espérez que ce soit un Bienvenue à Zombieland version 2019, avec des messages peut-être sociétaux, politiques, etc., qui sont adaptés à 2019, ce n'est pas le cas. C'est le même... thème,
mais en même
le
temps,
même style que Bienvenue à Zombieland.
En même temps, ça me paraît normal parce que depuis, en fait, rien n'a évolué.
Pas bah depuis, ils ont élu Trump, alors bon, c'est.
Non, mais à Zombieland.
Ah oui, à Zombieland, oui, ils sont bloqués là-dedans.
Ils sont bloqués en 2009.
Mais oui, c'est vrai, en fait, les personnages du film sont bloqués dans le temps puisqu'ils ont plus de société, la société n'évolue plus. Et du coup, bah, le film s'adapte à ça. Et donc, oui, vous n'allez pas avoir des références actuelles, vous n'allez pas avoir des messages politiques actuels, des personnalités politiques actuelles. C'est un film de 2009, mais qui sort en 2019. Ce qui, en soi, est déjà, je trouve, assez intéressant pour aller le voir, quoi. Parce que, en plus d'être un moment marrant, ça fait des bonnes. Enfin, en rentrant, on en parlait dans le métro et on a eu des bonnes discussions, quoi, sur que veut dire ce film, qu'est-ce que ça fait qu'il existe et tout. Donc voilà, c'était cool.
Est-ce qu'on passe à la partie spoiler, du coup ?
Oui ! Passons à la partie spoiler pour Retour à Zombieland. Ça commence maintenant. Est-ce qu'on peut commencer par parler des non-twists de ce film ?
Ah oui.
Où on a quand même cru qu'il y aurait des twists, et il n'y a pas eu de twists.
Donc ouais, mais vraiment, on en parlait en sortant, c'est que moi j'attendais que du coup, ce personnage de Madison qui m'a un peu... au départ,
décontenancée,
je me suis dit, ah mais d'accord, en fait, elle est pas bête, c'est une sorte de Wichita qui va se retourner et genre tous les flinguer ou j'en sais rien, tu vois. Pas du tout. Elle est juste bête, de A à Z.
Mais j'ai pensé la même chose, je me suis dit, en fait, c'est impossible d'écrire ce personnage en 2019, donc c'est un piège, et en fait, elle est... parce qu'en plus, il y a toute cette histoire qui n'a aucun sens, où elle est là, ouais... Je vivais dans une chambre froide, genre toute seule pendant 10 ans et tout, je suis de ouf, enfin n'importe quoi. Elle est ultra bien sapée, elle est ultra maquillée, elle a pas l'air zinzin pour une meuf qui est restée toute seule pendant 10 ans. Elle a pas l'air de savoir se battre non plus, puisque le seul truc qu'elle fait contre les zombies, c'est une bombe au poivre. Ouais. Donc,
qu'est-ce qu'elle a fait ?
Comment tu fais ? Et en fait, du coup, je me suis dit, bah c'est obligé. En fait, c'est les deux mecs qui sont débiles de la croire juste parce qu'elle a des ins, tu vois. Et elle va se retourner contre eux. Moi, je pensais qu'elle... comme dans Walking Dead, il y a toujours plein de bails de communautés autogérées d'humains qui se tirent sur la gueule en permanence parce qu'ils n'ont pas assez de problèmes avec les zombies, ils vont en plus se faire chier entre eux, tu vois. Je me suis dit, elle appartient à un autre groupe qui va essayer de, bah, de leur piquer leurs ressources, d'emménager à la Maison Blanche, de leur piquer leurs armes et tout. Bah non, c'est...
Non, non,
c'est
elle est juste... voilà.
C'est une blonde nunuche qui avait très envie de... Alors, le fait qu'elle dise clairement, en fait, j'ai tellement envie de ken, soit je te ken toi, soit je te ken ton pote, j'étais là... Ok, ça c'est plutôt
pourquoi
c'est
pas, ouais.
Un peu moderne, vraiment. Finalement. Mais c'est tout.
Ouais, ouais, voilà, ouais. C'est marrant.
Voilà.
Et en même temps, tu vois, à un moment, je me suis dit, ouais, mais pourquoi ils en ont pas fait une meuf un peu, du coup, plus Instagrammeuse et tout, machin. Et j'étais là, mais en fait, ils sont bloqués en 2009.
Ah
Alix.
Oui, ça, ça.
C'est
effectivement,
impossible que ça ait évolué.
Si c'était Zombieland en 2019, elle aurait clairement été une Instagirl, l'influenceuse, tu vois.
Mais par
ce qui
contre,
aurait pu être marrant.
Oui,
mais
ça
là,
être
c'est
marrant.
Une Paris Hilton parce que c'est 2009.
Mais par contre, ce que j'ai trouvé drôle, donc, c'est tout le moment où elle parle de beurre. Tu sais.
Ah oui, ouais, elle invente Uber.
Elle invente
oui.
Uber. Et vraiment, les autres, ils sont là. Oui, bien sûr. Oui, oui, t'as raison, t'inquiète. Monter dans les voitures des étrangers et tout.
Grave une bonne idée, hein, dis donc. En plus, ils te donnent des bonbons et tout.
Et tout le monde se fout de ta gueule.
Mais pareil, en fait, j'avais l'impression que ça rentrait dans ma théorie. Vous connaissez mon amour des théories qui ne se vérifient jamais, mais qui sont cohérentes dans ma tête. Ça rentrait dans ma théorie de, ok, le film est en train de nous dire qu'elle est pas si conne, puisqu'elle est en train d'inventer un truc où nous, les spectateurs, on sait que ça marche et on sait que c'est une bonne idée, tu vois. Et je pensais qu'il y aurait soit d'autres vannes dans ce genre-là, où en fait, la meuf, son truc comique, c'est qu'elle est, en fait, elle a toutes les bonnes idées, mais juste, elle vit dans un monde qui ne permet pas de les implanter, genre qu'elle invente d'autres trucs, tu vois, je sais pas, les AirPods, whatever.
Ouais.
Soit que le film est en train de nous dire elle est pas si conne, faites attention, comme ça on va pas être, enfin ça sera cohérent quand elle se retourne contre théorie qui dans ma tête solide comme le rock qui juste n'arrive jamais. Voilà, ils n'ont pas eu envie de faire ça.
Non, puis
est-ce que t'as cru qu'elle devenait zombie, toi?
Moi j'ai cru qu'elle devenait zombie, donc j'ai cru vraiment qu'il l'avait tuée. Alors je sais pas, moi je suis très naïve.
Alix premier degré. On la voit pas.
Moi on me dit je crois Mimi.
Règle numéro 1 du cinéma et de la fiction en général, si tu vois pas le corps. Mais non, mais c'est pareil, ça ne marche pas. C'est à cause de ça que j'ai des théories débiles. Il y a au moins 5 personnages de Game of Thrones, j'ai passé 8 ans à dire non, mais il est pas mort, alors qu'il était mort. Juste parce qu'on n'a pas vu son corps et que j'étais là. Est-ce qu'on l'a déjà vu dans la même pièce que machin? Non, je crois pas. Ils sont décédés. Voilà, je vais pas dire qui, au cas où. Mais c'était pas aussi clair que dans ma tête. Mais du coup, en fait, j'ai compris tout de suite que c'était une allergie, puisqu'elle mange. En fait, dans Zombieland, il n'y a rien qui arrive pour aucune raison. C'est quand même un film qui est très limpide dans sa construction. Quoi. C'est pas un film qui essaye de te faire croire qu'il est réaliste ou quoi.
Oui.
Donc en fait, avoir 5 minutes de dialogue où cette meuf, elle grignote des trucs, j'étais là, ok. Elle est... Genre vraiment dans ma tête, ça a fait, elle est allergique aux cacahuètes, elle va avoir une allergie, ils vont croire qu'elle est zombie, ils vont voir la tuer, mais il va pas la tuer parce que c'est Jesse Eisenberg et du coup après elle va revenir. Mais je pensais qu'elle reviendrait soit vénère d'avoir été abandonnée, soit zombie, parce que du coup elle s'est fait zombifier dans la forêt et elle revient en zombie et Jesse Eisenberg il est là quoi, non, je pensais que je t'avais tué, ou un truc comme ça, tu vois. Je pensais pas que juste, en fait, ça sert juste à la sortir du film pendant un moment.
Oui,
parce que je pense que ce personnage, comme j'ai dit dans la partie sans spoiler, en fait une heure et demie avec ce personnage non-stop,
c'est long,
donc il faut aérer un peu le film, donc il faut lui donner une raison de plus être là, donc elle est plus là et après elle revient et c'est exactement la même personne.
Oui,
et puis elle n'est pas vénère ni rien, elle est là.
Personne. Et moi, tu sais que du coup, j'ai cru que en fait, elle était une forme encore plus évoluée que de zombie.
Alors là, c'est la théorie d'Alix, mon gars.
Moi, j'ai cru que quand il l'a vu conduire la camionnette, je me suis dit, d'accord.
C'est un zombie qui conduit la camionnette.
Les zombies ont évolué bien et ils ont appris à conduire. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas. Ça me paraît logique. Ils ont appris.
Trop.
Non, mais c'est vrai. Enfin, je sais pas. Et du coup, je me suis dit, ah, ils ont changé d'apparence. C'est tout juste que ce que vraiment, elle rentre dans la voiture avec eux. Et là, je me dis, ah non, il n'y a pas de twist.
Mais on a vraiment imaginé 4 twists différents sur ce perso qui est, enfin, c'est what you see is what you get. C'est une blonde nunuche qui veut Ken, c'est ça son truc, tu vois.
Ouais.
Et du coup, bon, bah, on a peut-être prêté trop d'intention à ce film qu'il n'avait pas au final.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, je pense qu'on s'est toutes les deux douté que les personnages de Luke Wilson et de son sidekick, donc qui sont les miroirs de Woody Harrelson et Jesse Eisenberg, n'allaient pas rester dans le décor très longtemps au final. Mais je pensais pas, enfin, j'aime bien, juste, ok, on va parler de ces personnages-là, puisqu'il y a pas tellement de nouveaux personnages. J'aime bien leur scène, parce que j'aime bien ce côté miroir où, en fait, les Jesse Eisenberg et Woody Harrelson ne se rendent pas compte qu'ils leur ressemblent, et ils sont là, ils sont hyper chiants, ces gars, quand même, ils sont trop casse-couilles, ils se la racontent trop. Et toutes les autres meufs sont là, ouais, ils sont vraiment très chiants. Ça, c'était marrant. Alors, la scène avec Jesse Eisenberg et son double, avec les règles et les commandements,
ah ouais,
elle est
longue! C'est génial, mais c'est super long. C'est vraiment ce que je me suis dit, genre, pourquoi, en fait, passer tant de temps dessus alors qu'on va les tuer dans 2 minutes? On le sait, tu vois, ils vont pas finir le film ensemble, c'est sûr.
Clairement, on les a vus arriver, soit c'est des méchants, enfin, dans tous les cas, ils vont pas rester. Alors, je pensais qu'ils duraient peut-être un poil plus longtemps parce que vraiment, ils arrivent 3 minutes après, ils sont dead. Ça va très vite. Ils sont zombifiés et ils se font tuer, du coup. J'ai bien aimé cette scène de bagarre, pour le coup, parce que en fait, on les voit jamais trop au corps à corps avec des zombies, puisqu'ils ont toujours beaucoup, beaucoup d'armes, parce que l'Amérique. Et en fait, ce truc de huis clos, où ils avaient pas d'armes en main, et ils se battaient vraiment dans tout le... Alors, tout l'hôtel à Elvis... Pourquoi Elvis Presley, je ne sais pas, mais c'était marrant. J'ai trouvé que c'était bien chorégraphié et tout. Enfin, il y avait un vrai truc, genre, ok, il n'y a pas tellement de scènes d'action dans ce film. Il y en a une grosse à la fin qui est débile du cul, au début, opening dans le champ devant la Maison Blanche, là, au ralenti, avec le générique qui arrive. Ok, bon, c'est encore une
fois. C'est
trop bien. Là, c'est un peu un film grosse couille, tu vois. Donc, let's go l'Amérique. Mais cette scène de bagarre, je pense que pour moi, c'est ma préférée, c'est ma scène d'action préférée du film. Mais après, ouais, ils sont juste plus là, bah, ok. Merci d'être passé. Moi, j'aime bien Luke Wilson, donc j'étais un peu triste parce que j'aurais bien aimé qu'on le voit un peu plus. Mais en fait, ils servent juste à amener ce Deus Ex Machina de leur voiture débile.
Ah ouais, la voiture, putain.
On comprend, mais ça marche même pas, en fait.
Mais non, ça marche pas parce qu'en fait, genre, vraiment, ils essayent la voiture. Moi, j'ai cru qu'ils l'avaient cassée.
Bah oui, et puis quand même, ils l'ont pas cassée, ils l'ont renversée sur le dos. Ouais. Donc, comment la meuf, toute seule, elle... Alors, ok, c'est Rosario Dawson. Genre, elle est un peu virile, tu vois, comme
ils l'ont renversée sur le dos.
Oui, parce que il dit, je vous ai dit que c'était un risque de, enfin, c'est sûr que tu fais des tonneaux avec cette caisse là, et donc évidemment ils font un tonneau et elle est coincée sur le dos, quoi, sur toi. Et en fait, j'ai trouvé ça, c'est chelou parce que ils ont tout ce truc, le running gag de Woody Harrelson dans ce film, c'est qu'il s'est fait une voiture ultra badass avec une mitrailleuse Gatling dessus, là, son truc qu'il appelle le Bestio, The Beast, mais qu'il est obligé de conduire des monospaces nuls pendant tout le film parce que toutes les voitures cool qu'il trouve, ça ne marche pas. Ce running gag marche très bien, genre vraiment à chaque fois qu'il trouve un véhicule et que ça rate, je suis là, c'est quand même marrant, c'est marrant quand même.
C'est quand même.
Mais du coup, ils ont cette élément très utile qui est cette voiture modifiée sur laquelle Luke Wilson roule littéralement avec
sur tout le monde
truc. Et en fait, je suis là, mais juste à la fin, et peut-être que je me prends trop la tête pour Retour à Zombieland, qui est pas un film qui est fait pour être cohérent, tu vois. Mais en fait, à la fin, t'as Rosario Dawson qui les sauve d'une marée de zombies qui sont les plus durs à tuer du monde, avec un Hummer modifié. Je suis là, mais en fait, ils auraient dû, dans ma tête, faire dans le scénario qu'elle répare la voiture de Woody Harrelson, qui a quand même une mitrailleuse de ouf, tu vois, dessus, et ça aurait été beaucoup plus cohérent. Encore une fois, c'est Zombieland, hein, je me rends bien compte, qu'elle arrive avec ce truc et qu'elle les mitraille, alors que là, c'est une go dans une voiture, certes avec des gros pneus, devant une marée de zombies. Enfin, on les voit, ils sont des centaines, tu vois, ils passent le film à nous dire qu'ils sont quasiment indestructibles et tout, donc je suis là, est-ce que je suis vraiment censée? Et après, bon, le surplus va sur le toit.
Non, mais ça, c'était pas trop marrant aussi avec cette histoire de limpidité. Dès le début, donc Woody Harrelson commence par dire qu'il a des origines...
Des origines natifs américains.
Ouais, c'est ça. Et genre, j'étais là, super, donc on sait comment la scène finale va dérouler. Enfin, vraiment, quand il raconte l'histoire de comment il chassait le bison, t'es là, bon, bah d'accord, on a la scène finale.
On peut fast forward, peut-être.
Non, mais vraiment, du coup, j'étais là, bon, bah, ma foi. Après, cette scène, elle était assez marrante aussi, où, bah voilà, il se jette dans le vide. Moi, j'ai vraiment cru qu'il allait sauter, hein. Voilà, comme d'hab, je suis naïve.
Ah, mais moi aussi, je pensais vraiment qu'il allait sacrifier. Et en même temps, ça va très bien avec le personnage de pas le faire, parce que c'est sûr, un mec qui se sacrifie. Mais en même temps, tu sens qu'ils ont pas tellement réfléchi leur plan parce qu'ils l'ont fait dans l'urgence. Et que vraiment, quand le gars, quand Woody Harrelson se suspend au crochet, il a pas de plan pour redescendre du crochet, quoi. Il est juste pendu comme un connard en mode. Ah, c'est long et c'est haut. Donc voilà, c'était un petit, pour le coup, c'est un petit peu cohérent parce que c'est pas des masterminds. Ils ont pas eu 8 ans pour préparer leur plan. Qu'est-ce qu'on pense de cette communauté de pacifistes qui fument des joints et qui font semblant d'avoir inventé des chansons de Bob Dylan, Alix? Qu'est-ce qu'on pense de ce message politique dans le film?
Eh bien, on pense que finalement, bah, le message politique du film, c'est quand même que bah, il faut des armes. Donc,
oui.
voilà, oui, oui, oui. S'il y en a un, si c'est un message politique, parce que je pense pas que ça en soit vraiment un.
Alors non, c'est pas un film qui prétend dépeindre des problématiques contemporaines, mais je trouve que, alors ça existait déjà évidemment en 2009, les hippies de Berkeley, qui est donc une université en Californie et tout, ça existait déjà, donc c'est pas une invention qui est arrivée entre Zombieland 1 et Zombieland 2, mais ce bail de pacifistes qui sont, en fait, pour moi, cette communauté-là, Babylone, c'est une parodie des millennials, comme les réacs les voient, tu vois. Donc, ok, c'est des gens, ils veulent pas travailler, ils veulent pas d'armes, ils sont en mode kumbaya, machin, mais en fait, c'est pas ça la vie. La vie, c'est bouffer les autres ou être bouffé, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est quand même un message qui est assez actuel.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Je pense que c'est pas anodin que le film se moque des jeunes hippies qui veulent vivre ensemble et pas se mettre sur la gueule, parce que c'est vraiment un vrai sujet actuellement aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Du coup, c'est quand même... Enfin, je peux pas non plus dédouaner à 100% le film en disant « Non, mais c'est pas un message politique. » Les gens qui font ce film, ils savent qu'ils le font en 2019, encore une fois. Ils l'ont pas écrit il y a 10 ans, donc il y a quand même une forme... Où, en fait, pour moi, c'est un film qui est républicain, dans, donc, du Parti républicain américain. C'est un film de droite, c'est pas un film... d'extrême droite, c'est pas un film raciste, c'est pas un film qui dit il faut renverser le gouvernement ou quoi, mais dans son message, c'est un film qui dit le mieux c'est d'avoir des grosses couilles, des grosses flingues, des gros flingues, éventuellement une petite blonde qui veut de pépon, c'est pas mal, tu vois, donc t'es là.
Ouais, c'est vrai.
Ok, vraiment, et genre, tout c'est. En fait, il y a une forme d'auto-parodie du personnage de Woody Harrelson qui a ses références très datées de Elvis Presley. Ça, c'était un homme dans sa Cadillac rose et tout, qui du coup, dont le film se moque. Mais à la fin, c'est Woody Harrelson qui a raison quand même, parce que c'est lui qui voulait pas lâcher ses armes, c'est lui qui sauve tout le monde. Et en fait, c'est le personnage le plus réac du film, puisque quand, enfin, alors il y a cette scène qui est hilarante en soi, mais il pète littéralement un plomb en apprenant que...
C'est
donc,
super
Little
drôle,
Rock, qui est un peu sa fille adoptive, l'air de rien, sort avec un pacifiste, il pète un câble. Et alors, c'est très marrant parce que Woody Harrelson joue très bien et que le timing est réussi. Mais c'est quand même un film qui nous dit la pire chose qui puisse arriver à ta fille, c'est de sortir avec un mec qui veut pas faire la guerre et qui veut juste genre être heureux dans la vie, tu vois. C'est bizarre.
Ouais, c'est bizarre. Et puis même, il a ce running gag à chaque fois qu'il trouve des grosses voitures, des gros guns et tout machin. Il dit Thank God for, rednecks. Donc merci pour les bouseux. Enfin merci d'avoir inventé d'avoir inventé les Américains en fait du fond de l'Amérique,
les vrais
Américains qui ont des guns et des bolides. Mais oui, c'est vrai que du coup le film a une portée un peu chelou là-dessus. Après ça se termine quand même en disant oui, la maison ce n'est pas la maison que tu habites, c'est la maison avec qui tu es. Vraiment 2009.
Et puis il y a cette idée de... Enfin, je pense que c'est mon problème avec mon propre cerveau, hein, mais je peux pas suspendre ma crédulité à ce point-là. Et en fait, c'est tellement un film qui en a rien à foutre de la survie et qui en fait en a rien à foutre des zombies. Il y a très peu de moments où les zombies sont une vraie menace. Il y a la première fois qu'il voit le T-800... T-8000, oui, pardon, où ils essayent de prendre le bus, là, le genre de bus de tournée. Et en fait, quand ils voient qu'il lui tire dessus et que ça le tue pas, il y a quand même un petit moment de flip où ils sont là... Ok, non, ça c'est pas. On n'a pas signé pour ces conneries, tu vois. Mais à part ça, c'est juste ultra fun pour eux, les zombies. Ils kiffent les tuer. T'as le kill de l'année, le kill de la semaine.
Ah ouais, le kill de l'année, c'est drôle.
Ou alors ça, enfin rien que ça. Et je sais que c'est mon cerveau qui a des problèmes, mais je suis là. Comment il sait, Jesse Eisenberg, qu'il y a un mec en Italie?
Je suis
il
d'accord.
A Internet? Je ne crois pas. Il n'a pas Google, il n'y a pas Twitter pour faire le kill de l'année. Donc...
Je suis d'accord.
Putain. C'est un peu chelou parce que t'as tout ce truc qui est quand même intégré au film où c'est la voix off de Jesse Eisenberg qui te raconte des trucs et tout. Et. En fait, ça, c'est impossible qu'il le sache, donc je suis là.
Ouais, bien sûr, et même tout ce truc, on parlait tout à l'heure de l'électricité, donc il justifie certaines choses, mais pas d'autres. Donc, comment il mange, on sait pas. Par contre, l'électricité, on sait que c'est parce qu'il pleut et qu'il y en a encore dans les barrages, du coup. Enfin,
je comprends pas pourquoi avoir mis cette réplique. J'ai l'impression que le film, il a un peu le cul entre deux chaises sur est-ce qu'on veut s'intéresser au fait qu'il y a des zombies et que ça fait 10 ans qu'il y a des zombies, ou pas. Globalement, ils veulent pas s'y intéresser, parce que même au début, ils nous présentent différents types de zombies. En fait, c'est très peu utile dans le film, tu vois. Il y a le fameux ninja, le zombie là, hyper...
Mais entre le Hawking et le ninja, il y en a, y a pas de
Hawking
différence.
T'as un à un moment, parce qu'il arrive à monter une échelle, et t'as des blagues sur les Homer, parce qu'ils sont débiles, donc ils sont là, ouais, les zombies débiles, on va les garder quand même dans le film. Parce
que, don't shoot.
Et t'as, ouais, voilà, t'as, donc, des fois, il dit, don't shoot va pas gâcher une balle, mais d'un autre côté, il gâche des balles, l'intégralité de la vie, juste pour faire des effets de style. Enfin, c'est juste genre, et décide ou pas. Est-ce que, il y a une phrase où il dit, c'est de plus en plus rare de trouver des voitures qui fonctionnent et tout. Mais en vrai, dès qu'ils ont besoin d'une bagnole, ils ont une bagnole. Woody Harrelson, il se barre de Babylone, il a un pick-up flambant neuf, je suis là.
Alors qu'en fait, il a trop galéré à trouver le monospace déjà.
Ouais.
Enfin, genre. Il y a des trucs, ça marche pas. Et par exemple, quand ils vont dans le centre commercial et que bah ils croisent un zombie par-ci par-là, et puis que à la place d'aller trouver à manger, il va sniffer des bougies. Moi, je suis là, mais priorité peut-être. T'as pas des règles un peu à suivre?
Mais cela dit, tu vois, il y a aussi ce. En fait, j'aime bien le fait qu'il aille dans un magasin de bougies.
Oui, et bien
qu'il
sûr, mais c'est
drôle.
En fait,
vous vous rendez pas compte, mais Zombieland, ça pue la mort comme ouais. endroit. Et du coup, mon petit self-care, c'est d'avoir des trucs qui sentent bon. Je suis là, bah ça, c'est un truc intéressant de. En fait, apocalypse zombie, je vais prendre des conserves. 10 ans après, ok, on va dire que j'ai un système rodé pour la bouffe et tout, puisqu'ils sont encore là, ils sont bien en forme, ils sont.
Ouais.
Tu vois, ils ont pas perdu de poids ni rien. Bah en fait, moi, ma prio maintenant, c'est de pas sentir la charogne tout le temps. Donc je vais. Est-ce que je prends Brise des Alpes aujourd'hui, tu vois? Ça, j'étais là, ok, on commence à avoir des éléments qui pourraient être intéressants de. Ça fait 10 ans qu'on vit dans un monde post-apo. Mais en fait, le film, il s'en fout, il veut juste. Faire des shenanigans où il faut aller retrouver la gamine qui s'est barrée avec un hippie à la fac et en fait les hippies ils peuvent pas se débrouiller tout seuls donc faut qu'on y aille avec nos armes et tout
et pareil toute l'histoire enfin l'arc narratif autour du mariage, je suis là mais qui va vous marier, qui
oui. enfin, genre...
pourquoi la question se pose en
qu'est-ce
fait
qu'est-ce qui se passe si vous voulez divorcer?
On trouvera pas d'avocat, oui mais d'accord, mais trouver un prêtre d'abord, enfin je...
Oh, t'es tradie, Alix.
Ah oui, je suis très tradie, moi, faut le savoir.
Non, mais... comme pas avec le mariage. T'as un mariage entre
vraiment,
Jésus et toi.
Genre, je trouvais que le thème de l'engagement n'avait rien à faire là-dedans, parce que ça fait vraiment littéralement 10 ans qu'ils vivent ensemble et qu'ils sont seuls sur Terre. Enfin, à la base, quand même, dans Bienvenue à Zombieland, ils sont un peu seuls sur Terre. C'est dur de trouver quelqu'un qui n'est pas infecté. Mm-hmm. Alors que là, bah, ils tombent sur des gens pas infectés tout le temps. En plus, des gens qui savent pas se défendre, quoi.
Bah donc... oui, parce que Berkeley, il a une guitare, ouais. Madison, elle a un pepper spray, et bah, tous les gens à Babylone, en fait, comment ils sont arrivés là? Ils ont construit
comment
ça,
ils ont
pas d'armes, comment le mec Berkeley, il sait qu'il y a ça qui existe, et il sait où c'est, enfin. Et en plus, c'est des connards qui font des feux d'artifice tous les jours, donc en fait, allô, c'est les zombies, tu vois, mais pas un panneau qui dit à table là où t'habites, quoi. Donc, mais bon, c'est pas un film qui est fait pour être cohérent, mais il est vraiment un tout petit peu trop incohérent pour pas qu'il y ait des moments où je sorte un peu du film en me disant, quand même.
En fait, il est pas.
Un stretch, quoi.
Il a vraiment il est pas assez absurde pour moi. Enfin, vraiment, il manque d'absurdité. S'il avait été encore plus absurde. Bah en fait peut-être je serais rentrée dedans et je serais là oui bah ok enfin pourquoi pas enfin mais
oui c'est là où pour moi c'est absurde. Difficile enfin je pense que j'ai jamais vu de comédie de zombies qui arrive au niveau de Shaun of the Dead d'Edgar Wright parce que pour le coup c'est le niveau d'absurde et hyper bien maîtrisé et donc c'est un film britannique avec Simon Pegg et Nick Frost qui est un duo d'acteurs comiques qui joue beaucoup pour Edgar Wright et bah c'est le moment où les zombies l'épidémie commence et en fait les deux héros sont tellement semi-stone semi-dépressifs qu'ils se rendent pas compte, ils croient que c'est leur voisin. T'as aussi tout ce truc de bah, en Angleterre les gens tirent un peu la gueule, ils se parlent pas dans la rue et tout, du coup bah pendant un petit moment ils se rendent pas compte que c'est des zombies et t'as plein de trucs comme ça. Et Shaun of the Dead c'est vraiment, je pense tout le monde est d'accord pour dire que c'est la meilleure comédie de zombies du monde. Et c'est là où Bienvenue à Zombieland et Retour à Zombieland n'arrivent pas tout à fait à choisir dans quel camp ils sont, quoi. Est-ce qu'on est un film d'action? Est-ce qu'on est un film sur la famille et les romances et les relations humaines, au final, avec des éléments comiques? Est-ce qu'on est un film de zombies? Mais du coup, il faut parler un peu du fait qu'il y a quand même des zombies. Et que, bah, psychologiquement, ça devrait être dur pour tout le monde, tu vois. Mais ils sont là, non, ça va, tranquille. Est-ce qu'on est un film de survie? Est-ce qu'on est un film absurde? Mais du coup, il l'est pas assez.
Ouais.
Donc... C'est un petit peu, mais je pense qu'il est pas plus le cul entre deux chaises que le premier qui avait déjà ce côté, c'est une comédie d'action avec des zombies, mais en
soi,
les zombies n'ont pas beaucoup d'intérêt scénaristique, quoi.
Et toi, est-ce que t'as un film de zombies préféré?
Bah alors, je pense que mon film de zombies sérieux préféré, c'est 28 jours plus tard. Mmh. Donc j'en avais parlé dans Laisse-moi kiffer, c'est un film de Danny Boyle avec Cillian Murphy, de Peaky Blinders, tu connais?
I love it.
Et bon, pareil, c'est les. En fait, déjà, il y a un trope, donc une figure de style des œuvres de zombies que j'aime bien. C'est le héros qui se réveille après tout le monde parce qu'il était généralement dans le coma. C'est comme ça que commence Walking Dead, c'est comme ça que commence 28 jours plus tard. Donc il se réveille, il est à l'hôpital, il est tout seul. Il s'est pas fait attaquer puisqu'il est pas sur le radar des zombies tant qu'il est dans le coma. Et il doit du coup comprendre qu'il y a eu des zombies. Et en fait, généralement, il arrive dans une ville qui est déjà un peu dévastée. Donc c'est pas. Ça court dans tous les sens. Mais bah naturellement quand il va voir des humains, il va aller les voir parce qu'il sait pas que c'est des zombies, il a pas eu l'info et du coup ça fait hyper peur. Et dans 28 jours plus tard, les zombies sont désinfectés qui courent ultra vite et qui font grave badé. C'est en Angleterre donc tout le monde n'a pas des flingues, qui est quelque chose que je trouve intéressant quand parce que c'est à peu près les mêmes règles, il me semble, il faut les tuer. Il me semble qu'il y a toujours le côté il faut viser la tête. Ils sont pas faciles à tuer. Mais t'as pas de flingue dans, à tous les coins de rue comme t'en as dans Zombieland, oui, par oui, exemple. Et bah, Cillian Murphy est d'une délicatesse folle dans ce film. Et c'est un film avec pas beaucoup de dialogue. C'est vraiment, ils rencontrent des gens, des survivants, et ils essayent de trouver, donc c'est quand même les débuts de l'invasion, et ils essayent de trouver, ah, moi j'ai entendu dire que là-bas c'est un endroit protégé, il y a l'armée et tout, donc bah vas-y, on va essayer d'y aller. Mais est-ce qu'on peut faire confiance aux humains? Est-ce que finalement c'est pas plus dur de faire confiance aux survivants qu'aux zombies? C'est tout un truc où est le vrai danger et tout. Et c'est un film qui en soi voilà, c'est pas hyper spectaculaire, c'est pas World War Z, mais moi mes histoires de zombies préférées finalement c'est les histoires d'humains, ouais. Voilà. Et bah, c'est ce que Zombieland essaye de faire dans l'aspect comique, mais après le meilleur film comique de zombies, comme j'ai dit, c'est pour moi c'est Shaun of the Dead de loin. C'est quoi tes kiffs de zombies, toi?
Bah écoute, moi j'ai l'impression que film de zombies, bah soit c'est une critique donc de l'humain qui est
la société.
Enfin, de la société, de ce qui reste en fait. Soit, bah, moi, c'est ce que j'ai vu dans donc, mon préféré, mais un peu mon seul aussi, puisque je suis très peu cultivée niveau zombie. C'est donc The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, dont j'ai parlé aussi dans Laisse-moi kiffer. Mais donc voilà, c'est avec Adam Driver, Bill Murray. Donc, enfin voilà, c'est très pince sans rire. Voilà, c'est moi j'ai beaucoup rigolé.
C'est pas
rigolé.
Le même humour que dans Zombieland,
non,
clairement.
C'est pas du tout le même humour, c'est plus auteur, c'est plus c'est très méta comme cinéma, enfin voilà, mais du coup la critique elle est pas faite sur les ceux qui restent en vie, parce qu'en fait ceux qui restent en vie, ils savent dans le film qu'ils sont dans un film de zombies. Donc enfin
ah,
c'est
okay.
Complètement méta
mais est-ce
comme
que
ça.
Ils savent qu'ils sont dans un film, c'est-à-dire ils savent qu'ils sont dans un truc de fiction ou ils connaissent. En fait, il y a souvent un truc dans les films de zombies, c'est que les personnages ne savent pas que les zombies existent. Enfin, comment dire ça? Ils vivent dans un monde où le zombie n'est pas une figure culturelle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'œuvres de zombies où ils prononcent pas le mot zombie. Dans World War Z,
ah oui,
ils les appellent
pas.
Les Z, un truc
d'accord.
Comme ça. Dans Walking Dead, ils ont pas. En fait, ils vivent dans un monde où il y a pas des films de zombies tout le temps, où il y a pas eu cette figure du zombie, même historiquement dans la culture haïtienne et tout. Donc c'est rare d'avoir des œuvres de zombies où les gens ils voient un zinzin qui court vers un gars et qui le bouffe et qui font ah c'est un zombie, parce qu'en fait ils vivent dans un monde où les zombies n'existent pas. Est-ce que dans The Dead Don't Die ils savent que enfin ils vivent dans notre monde en gros où les zombies c'est une figure culturelle, ou est-ce que littéralement ils savent qu'ils sont dans un film?
En fait ils savent que donc ils connaissent les zombies parce que en fait c'est l'histoire donc de ces deux inspecteurs qui sont joués par Adam Driver et Bill Murray qui se retrouvent sur une scène de crime un matin. Alors qu'il se passe jamais rien dans leur petit village paumé au milieu de l'Amérique. Et donc voilà, ils voient ça, ils font « Mais qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un animal ?» Puis là, il fait « Non, mais c'est sûrement un zombie. » Et puis ils font « Bah oui, sûrement. » Et enfin, voilà.
Okay, d'accord.
Et après,
bah, faire classer, j'ai envie de dire,
ouais,
Michel.
Et après, genre, ils sont là, je sais plus, il y a toute une histoire autour de la musique du film aussi. Il fait, mais pourquoi on n'entend que cette musique quand on est dans la voiture? Il fait, mais c'est la musique du film, c'est le générique, tu vois.
Ah, ok,
et
d'accord.
Vois, c'est hyper
ils
méta
qu'ils sont dans
ça.
Un film. Quoi.
Ils savent qu'ils sont dans un film. Et puis à un moment, il y a Bill Murray qui s'énerve parce que bah, du coup, Adam Driver lui dit qu'il a eu la fin du scénario. Il fait, mais moi, je l'ai pas eu, je sais pas ce qui se passe à partir de là et tout. Enfin bon, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais j'adore, en fait. Et du coup, la critique, elle est plus sur les zombies. Et en fait, qui sont pas désinfectés, du coup, ils sont des morts vivants qui sortent des tombes et qui sont. Enfin, en gros, c'est une critique de Jim Jarmusch qui est un peu désabusé sur la société, qui dit voilà, quand les morts vivants sortent de terre, bah, ils sont à la recherche de ce qu'ils ont toujours cherché quand ils étaient en vie. Donc, il y en a une qui dit Chardonnay, Chardonnay,
c'est moi.
Il y en a un autre qui cherche le wifi. Enfin, en gros, les zombies reviennent à ce qu'ils voulaient. Voilà.
Donc, c'est une critique de nos travers et de nos besoins.
Voilà,
c'est
ça.
Pas forcément les trucs sur lesquels on devrait se concentrer.
Voilà.
Quoi.
Bah, après, ça fait un peu vieux con de sa part. Bon.
Il est plutôt jeune, hein, Jim Jarmusch,
ouais,
au final.
Voilà. Mais bon, je trouve que ce film, pour le coup, est assez rigolo et quand même reste un film de zombies qui fait... Enfin, moi, j'ai bien sursauté. Je sursaute facilement, mais j'ai bien sursauté. C'était des grosses scènes où, bah, tu penses, c'est fini, quoi, genre. Et il y a vraiment... Enfin, vraiment, les personnages sont hyper bien. J'adore les dialogues comme ça. T'as aussi... comment elle s'appelle, putain Mais tu sais, cette actrice androgyne là qui
Tilda
fait...
Swinton.
Tilda Swinton, voilà.
Ma femme,
il y a Tilda
mon mari,
Swinton.
Je ne sais pas, ma personne.
Il y a Tilda Swinton aussi dans le film qui en fait est envoyée par les aliens et tout. Enfin, c'est n'importe quoi, mais il y a de tout et de. Enfin, il y a plein d'inspirations à d'autres films. Enfin, voilà, je vous laisserai lire bah, du coup la critique que j'en ai fait sur Mademoiselle ou aller voir le film tout simplement parce que maintenant, donc, il était en ouverture au Festival de Cannes cette année. Donc voilà, c'était assez marrant de voir ça, en fait, parce que le film de zombies, bah, ça se fait un peu vieux, quoi. Enfin, c'est plus trop la mode, j'ai l'impression.
Oui, la mode est passée. Alors, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup bouffé pendant quand même bien une bonne grosse décennie, je pense. Quand Bienvenue à Zombieland est sorti, c'était le pic. Enfin, c'était le début du pic, je pense, culturel. Là, on est... Voilà, le pic est passé. Il y a toujours des œuvres de zombies. Je pense que c'est rare qu'il y ait une année sans... œuvre de zombies. Alors il y a notamment Walking Dead qui n'est toujours pas fini, qui continue. La BD est finie, mais la série continue. T'as souvent la figure de zombie dans les jeux vidéo, et t'as généralement un ou deux films de zombies qui sortent, mais c'est beaucoup moins par rapport à il y a quelques années. Et j'y ai pensé au tout début de Zombieland, en fait, où donc le tout début, c'est la présentation des nouveaux types de zombies, avec à chaque fois un random qui se fait attaquer par ce type de zombie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais resensibilisée au gore, qu'il y a eu une période où j'ai regardé tellement de films de zombies que ça m'avait désensibilisée aux scènes gore.
Ah ouais.
Et en fait, j'étais pas bien devant le tout début de Zombieland parce que j'étais là, putain, ouais, c'est longtemps que j'ai pas vu des trucs dégueulasses comme ça, en fait. J'ai vu, tu vois, des films depuis avec des trucs durs qui se passent, visuels et tout. Mais dans les films de zombies, il y a souvent une esthétique du gore où vraiment t'as des gros plans sur des têtes qui se font écrabouiller, des trucs comme ça. Et parfois, c'est fait pour choquer, comme dans Walking Dead, où c'est des personnages auxquels tu tiens, qui ont des morts atroces et tout. Là, dans Zombieland, c'est plutôt fait pour le fun, c'est le côté grand guignol. Oui. Mais en fait, ouais, alors en plus, on l'a vu à 10h du mat, j'avais pas bu de café et tout, tu sais. À 10h du mat, la tête qui se fait éclater comme une pastèque en mode Oberyn Martell, j'étais là, ouais, c'est tôt quand même. J'ai oublié qu'il y a eu une période où je m'infligeais entre guillemets ce genre de visuel. Alors c'est dans le film ça allait, tu vois, j'ai pas mal vécu le film. Mais ouais, la scène d'ouverture, comme elle est assez gore et que je me suis rappelé qu'en fait ça fait longtemps que j'avais pas vu de gore, j'étais là, ah ouais, c'est quand même, il y a eu toute une période de ma vie où je regardais des gens subir des traitements horribles aux mains de zombies qui voulaient leur bouffer les tripes et où c'était normal dans mon quotidien, ça allait plus, voilà.
En tout cas, j'ai bien aimé cette première scène là où quand ils décrivent du coup les zombies. Le Hawking qui attrape l'œil de l'autre là pour passer la porte, enfin c'est atroce, mais en même temps je me suis dit il y a de quoi faire, enfin c'est bien qu'il soit malin, tu vois, maintenant.
Mais c'est un peu dommage qu'au final c'est un peu sous-exploité. Pas ce zombie. Alors Madison aurait pu être un Hawkins qui a passé son permis.
Moi, c'est ce que j'ai pensé, donc voilà. Refaites un Zombieland 3
avec des zombies. Mais au bout d'un moment, si tu fais des zombies qui peuvent conduire, faire à manger, payer leurs impôts et tout, c'est juste des gens, tu vois.
Eh bien oui.
Des gens qui mangent des gens, peut-être, qui élèvent des gens. Et là, on part dans une critique méta Zombieland 2029. Ça va être ultra gênant. On sera là, non, arrêtez. Woody Harrelson sera un scientifique fou, tu sais, de 70 ans, qui peut élever des gens pour les manger. Horrible.
Mais en tout cas, bah voilà, ça fait quand même deux films de zombies cette année. Si j'en oublie pas, il y a Dead Don't Die et Retour à Zombieland.
Oui, bah il doit y en avoir d'autres, hein, mais c'est moins des grosses productions, en fait. Voilà. C'est moins des trucs attendus. Donc je suis curieuse de voir comment Retour à Zombieland va s'en sortir au box-office. Je pense que c'est un bon moment pour le sortir, en fait. Il sort la veille d'Halloween. Il y a un vrai côté, pas réac, mais voilà, capsule temporelle qui peut être sympa. Et en fait, j'ai vu un tweet qui disait « Retour à Zombieland est nostalgique pour le temps où les gens en avaient quelque chose à foutre de Bienvenue à Zombieland », ce qui n'est pas très sympa, mais en fait, je comprends l'intention. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas aimé le film, mais moi qui ai bien aimé le film, je suis d'accord dans le sens où oui, Retour à Zombieland, c'est le film à voir si t'as envie de te rappeler de ce que c'était de vivre en 2009, en fait, et avec l'âge que t'avais et tout. C'est un peu l'effet que m'a fait El Camino, le film Breaking Bad, qui est sorti du coup 6 ans après la fin de Breaking Bad, où il y a un vrai truc de ce film me rappelle de moi quand je regardais Breaking Bad il y a du coup quasiment 10 piges pour la première saison, et ouais, même 10 piges littéralement, et où j'étais étudiante, je le regardais avec un pote, on mangeait des pâtes à rien parce qu'on était fauchés, et du coup, bah ça me replonge dans cette période, et Retour à Zombieland fait exactement pareil, ça me replonge à la période où il y avait des zombies partout, où j'avais une robe avec un zombie avec un nœud dans les cheveux dessus, j'habitais à Lyon, j'allais à l'Institut Lumière voir des nuits de cinéma zombie et tout, j'étais vraiment à fond. Pas autant que d'autres, mais j'étais bien dans le truc. Et en fait, c'est une période de ma vie à laquelle je repense pas forcément tout le temps, tu vois. Et ça m'a fait un petit shot de nostalgie, voilà. Alors après, on est sorti, on était sur les Champs-Élysées, voilà, j'ai changé de vie. Mais je pense que ça peut avoir ce côté cool. Après, si vous êtes, si vous attendez un film qui a de la modernité au niveau de ses messages, au niveau de ses personnages, si vous trouvez que le premier était déjà un peu beauf, peut-être que le deuxième n'est pas pour vous, parce que c'est more of the same, mais comme the same, ça marchait déjà bien il y a 10 ans, en fait, ça marche pareil. Faut juste pas attendre que le film ait grandi, quoi, parce que c'est la même chose, mais ça marche. Enfin, en vrai, on a passé un bon moment,
tu vois. Ah ouais, ouais, moi j'ai bien, bien, bien rigolé, et franchement, ouais, je me suis éclatée ces deux jours de full zombie, ça m'a.
Et je suis très contente que Bill Murray soit de retour dans Retour à Zombieland.
Ah oui,
Zombieland,
oui, parce qu'on va en parler dans les spoilers. Oh là là.
Franchement, on est en full spoiler, on peut le dire. Bill Murray, meilleur personnage du 1, peut-être meilleur personnage du 2
mais
aussi, quoi.
Je pense.
Ah oui, restez jusqu'à la fin du générique, du coup. Car oui. il y a une scène post-générique. Mm. Et en fait, c'est vraiment le truc, c'est genre... C'est quoi, c'est pas nécessaire mais c'est sympa.
C'est
déjà de
sympa,
faire ce
ouais.
film, c'est pas nécessaire mais c'est sympa. De remettre Bill Murray dedans, c'est pas nécessaire
sympa.
Mais c'est sympa, c'est cool. Le film il est fini, il se tient, il y a aucun besoin de remettre Bill Murray, mais juste ils savent que tout le monde le veut et que tout le monde veut le voir. Et du coup, t'as littéralement Jesse Eisenberg qui dit bon, je sais que vous voulez voir Bill Murray, donc on va mettre Bill Murray. Je suis là, yes, c'est ça que je veux. C'est vraiment genre, tu sais, au McDo, mais quand oui. ils disent genre frites coca, t'es là, oui, c'est frites coca, c'est la base. Donne-moi les plaisirs simples de la vie.
Mais j'ai trop, trop kiffé revoir Bill Murray, surtout qu'il se fout de sa gueule. Donc il fait la promo de Garfield 3 le jour de la première contamination, en fait.
C'est peut-être même sa promo qui déclenche les zombies, puisque c'est quand le journaliste essaye de limiter, recracher une boule de poils, ce qui est long comme scène, qu'il se transforme. Alors il n'y a aucun lien de cause à effet, ce film n'essaye jamais d'expliquer quoi que ce soit de toute façon. Mais du coup, le patient zéro, c'est un journaliste qui a interviewé Bill Murray. Et ça, je pense que c'est une blague. On parlait un peu en sortant du film du fait qu'il y a certaines blagues qui sont peut-être très américaines, notamment l'obsession du personnage de Woody Harrelson pour Elvis Presley. Il parle de Graceland et tout, mais tu mets un moment à connecter ça à Elvis dans le film. Mm. Et en fait, si tu sais pas c'est quoi Graceland, t'as pas la rêve d'une bonne partie de l'intro où il parle de Graceland beaucoup et où il dit moi je vais aller là-bas et tout. Bon bah il faut savoir que Graceland c'est la maison d'Elvis Presley. Et là c'est un peu pareil, je suis pas sûre que tout le monde sache que Garfield c'est le film que Bill Murray regrette le plus d'avoir fait dans sa vie.
Et qu'après il le dit dans le 1 aussi.
Oui, voilà, c'est que c'est le seul truc qu'il regarde dans sa vie, c'est Garfield, et du coup, le fait que ce soit en faisant la promo de Garfield et que l'épidémie arrive et qu'après il tabasse des zombies avec des trucs publicitaires de Garfield et tout.
Je pense
que même pour Bill Murray, c'était cathartique dans un sens de faire cette scène. Et c'est trop marrant de lui donner une scène où juste il a une chaise pliante et il déboîte des zombies en sifflotant, quoi. J'ai un peu envie de voir ce spin-off, tu vois, de voir Bill Murray entre jour 1 et comment il finit dans sa maison. Où il le trouve dans Bienvenue à
Zombie. Où il fait semblant d'être un zombie.
Et ça, c'est pareil. Il y a une meuf qui dit... Il y a un personnage dans Retour à Zombieland qui dit « Ah, il paraît que Bill Murray, il a été buté par quelqu'un.
Oui, en fait,
il se faisait passer pour un zombie et tout. » Et je suis là...
Comment
mais vous avez le monde dans votre truc. Qu'est-ce que vous avez les infos c'est...
Non, mais attends, c'est carrément devenu un mot. Il a dit...
Murrayed.
Bon bah.
Quand vous avez des mèmes, vous avez de l'argot, vous êtes combien, vous avez un Snapchat,
ouais, ça,
je sais
pas.
Donc bon, voilà, c'est pas un film à aller voir pour la cohérence, mais pour le fun, franchement, un samedi soir, un grand popcorn, deux trois potes, qui aiment bien les comédies américaines, let's go. Moi, je pense que c'est un bon truc et c'est le souvenir d'une époque révolue finalement, de notre jeunesse envolée.
Et peut-être tant mieux.
En tout cas, on vous conseille d'aller voir ce film qui sort aujourd'hui au cinéma.
Tout à fait. Si vous avez aimé le 1, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas le 2. Si vous n'avez jamais vu le 1, faites comme Alix, enchaînez les deux. Ça peut être un bon double feature pour ce mois d'octobre, novembre. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres films qui sortent cette semaine qui t'intéressent, Mimi ?
Oui ! Certains et certaines le savent déjà. Si vous me suivez sur Mademoiselle depuis un moment ou dans le reste de ma vie, j'ai un problème avec Stephen King. J'ai une addiction à Stephen King, voilà. À ses bouquins principalement, mais aussi à une bonne partie des films adaptés de bouquins de Stephen King. Et là, il se trouve qu'aujourd'hui sort au cinéma Doctor Sleep, l'adaptation de la suite de Shining, qui est, alors, un peu comme Retour à Zombieland, finalement. Les films que personne ne comparera jamais. Oui. C'est une suite longtemps après, puisque Stephen King a écrit la suite de Shining très longtemps après. Il est sorti Shining dans les années
80.
Et la suite est sortie il y a 5 ans, je pense. il y a 4 ou 5 ans. Donc le livre lui-même a été écrit des décennies après le premier et le film est adapté du coup des décennies après l'adaptation de Stanley Kubrick. Rappelons que l'adaptation de Stanley Kubrick est un bon film, mais pas une très bonne adaptation puisqu'elle n'est pas très fidèle au bouquin. Ce n'est pas Stanley Kubrick qui adapte la suite de Shining puisqu'il est décédé malheureusement, c'est Mike Flanagan qui est notamment le créateur de The Haunting of Hill House, une série d'horreur Netflix qui avait été, que je n'ai pas vu car je suis une flippette, mais qui apparemment est très bien et dont la saison 2 arrive bientôt. Et il a déjà adapté Stephen King, puisque en fait il y a Netflix qui adapte pas mal de romans courts de Stephen King en téléfilm d'une heure vingt, une heure et demie ces temps-ci. Le dernier qui est sorti, c'était dans les Hautes Herbes, qui est adapté d'un roman que Stephen King a publié avec son fils. Et Mike Flanagan avait adapté une nouvelle de Stephen King qui s'appelle Jesse. En anglais, ça s'appelle Gerald's Game. Et c'est un huis clos sur une meuf. En fait, elle est dans une cabane dans un chalet dans la forêt avec son amant. Et ils font du BDSM. Donc son amant l'attache au lit. Il a une crise cardiaque et il meurt. Et elle est menottée au lit. Et du coup, elle est toute seule. Et tout le film et tout le livre, c'est dans sa tête et comment est-ce qu'elle va s'en sortir et tout. Putain. Et l'adaptation était grave cool. Enfin, franchement, je l'ai vu, j'étais tendue, j'étais pas bien. Et l'actrice porte très bien le film. Et donc, c'est Mike Flanagan qui, pour le coup, a un casting un peu plus connu et prestige, puisque c'est Ewan McGregor qui joue le rôle principal de Dr. Sleep. Et donc, il joue Danny Torrance, le petit de Shining. Red Room, tout ça, qui a grandi, spoiler pour Shining, voilà, Danny ne meurt pas à la fin, et qui a appris à développer son Shining, donc son don de prémonition, télékinésie, on sait pas trop, mais c'est un genre d'hypersensorialité, et qui se retrouve aux prises avec différents éléments, c'est dans notre monde, mais il y a du surnaturel, il y a du fantastique. J'avais été une des rares personnes, je crois, à bien aimé la suite de Shining. Il y avait pas mal de fans qui étaient déçus. Moi, j'ai pas d'affect particulier avec Shining, le livre, même si je l'aime bien, mais c'est pas mon préf. Donc la suite, j'avais trouvé ça bien. Et j'ai hâte de voir Dr. Sleep et je suis très intriguée de voir Ewan McGregor dans ce rôle parce que je l'aurais jamais vu là-dedans, en fait. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, il collait pas du tout au perso, mais apparemment, les premiers retours sont cool. Donc voilà, il y a Dr. Sleep au cinéma, donc j'avais probablement aller voir Dr. Sleep au cinéma car Stephen King, mon gars, je suis obligée contractuellement dans ma vie. Qu'est-ce que tu vas aller voir, toi ?
Eh ben, écoute, moi, j'arrive pas à me décider entre deux films pour ce week-end. C'est des films qui sortent pas aujourd'hui, qui sont déjà à l'affiche depuis une semaine, mais malheureusement, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Il y en a un qui s'appelle Hors Normes, de Eric Toledano et Olivier Nakache, qui sont deux réalisateurs français que j'aime bien en général, qui font des bonnes comédies françaises, enfin des bons films français, parce que c'est pas forcément toujours des comédies, ce sont des comédies dramatiques en gros. C'est ceux qui avaient fait Intouchables.
Ah bah oui,
oui. Voilà, ils ont fait aussi Le Sens de la Fête, voilà, ils avaient fait Samba, et donc en général c'est plutôt une valeur sûre. Et dans ce film là donc il y a Vincent Cassel et Reda Kateb qui sont deux acteurs,
c'est mes passions les deux là. Dans le métro, il y a les pubs du film où du coup c'est des affiches côte à côte, ouais. Une avec Vincent Cassel et une c'est le contre-champ, la Reda Kateb. Je suis là, quel casting de dingue.
C'est génial. Donc voilà, et c'est sur ils sont tous les deux, ils encadrent des jeunes autistes qui sont en situation de difficulté et les aident à s'intégrer en fait, à trouver des métiers, etc. Et en fait, les pouvoirs publics, si j'ai bien compris, leur mettent un peu des bâtons dans les roues. Donc c'est une histoire assez drôle. Sur un sujet sérieux, donc c'est un peu leur spécialité de dédramatiser, mais tout en restant, tout en pointant du doigt le fait que c'est sérieux. Et c'est vrai qu'en général, tu arrives plus, je pense, à changer les personnalités quand tu rigoles plutôt que quand tu pleures, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve que ça amène plus de monde à le voir. Donc
oui, tu t'y vas pas en te disant ça va être le seum et tout. Enfin, là, en fait, ce film, tu peux le pitcher de plein de façons différentes. Et il y en a qui sont vraiment déprimantes en mode ils encadrent des jeunes autistes, ils sont défavorisés, ils sont pas intégrés, ils ont pas de subvention de l'État. T'es là, ok, la bonne soirée ciné, la bonne ambiance. Mais en fait, le fait que ce soit Toledano et Nakache et que apparemment le film est très feel good, ça peut driver plus de gens qui se disent non seulement je vais passer un bon moment au cinéma, mais en plus ça va me sensibiliser à un sujet que je connais pas forcément, tu vois. Et il me semble que Fab l'a vu et qu'il a dit que c'était très bien.
Ouais.
Et je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie.
C'est possible, c'est un peu leur spécialité aussi.
Oui, oui, oui.
Mais voilà, donc je les aime beaucoup tous les deux et donc j'ai très envie d'aller les voir ce week-end et j'hésite entre ça et un film complètement déprimant de Ken Loach qui s'appelle
Ken Loach.
Qui oui, s'appelle oui. Sorry We Missed You. Et donc Ken Loach qui fait toujours le même cinéma social depuis 60 ans. Je sais pas.
Oui, c'est ça. Il c'est un si mec vieux. Qui est spécialisé dans faire du cinéma sur les couches défavorisées du Royaume-Uni.
Voilà, c'est la classe modeste moins. Voilà, donc voilà. En général, ces films tournent autour de ça. Et c'est toujours des films très bien réalisés, puisque bah, c'est un grand cinéaste. Et par contre, pour le coup, c'est vraiment la Depp. Mais,
mais c'est toujours... d'abord Sorry We Missed You, qui en plus, je crois, c'est sur l'ubérisation.
Ouais, c'est ça.
Donc les gens qui ont des petits boulots à la Uber, mais qui du coup sont hyper précaires. Mm. Et peut-être fait d'abord celui-là, et après... En norme,
après,
comme ça,
peut-être
tu vois,
je sortirai avec le cœur bon et je finirai avec Modern Love et comme ça, c'est bon.
Oui, fais, voilà, t'as ton dimanche. Tu fais ça dans l'ordre, hein. Tu rates pas l'ordre.
Je rate pas l'ordre.
Je veux dire, tu te remates, bienvenue à Zombieland.
Voilà.
Avec des hot dogs et puis ça marchera bien.
Exactement. Franchement, c'est un bel enchaînement, je trouve.
Oui, tout à fait. Eh bien, je pense qu'on a fini ce soir le popcorn sur Retour à Zombieland.
Exactement. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à écouter les autres, à en parler autour de vous.
Tout à fait.
À mettre 5 étoiles sur Apple Podcast.
J'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient fait et qui avaient fait des commentaires sur le podcast et tout. Donc merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Il y a aussi des gens qui m'envoient des mails, puisque vous pouvez me faire des retours sur le podcast à mimi@mademoiselle.com. J'ai eu plein de mails et tout. Enfin, c'est sympa. Voilà, les gens sont contents d'avoir un podcast ciné et série. Il y a notamment une Mad qui m'a écrit en fait. Donc le premier épisode de Sort le Popcorn, c'était sur le film Joker. Elle m'a dit en fait, j'ai vu Joker, ça y est, j'ai écouté une émission, je crois que c'est le Masque et la Plume ou un truc comme ça, enfin une émission France Inter.
Oh, le
qui
Masque et la Plume
Joker,
a adoré Joker.
Ils sont un peu snob, le Masque et la Plume. Mais en fait, je me disais, j'aimerais bien écouter des gens qui me parlent de Joker et rigoler. Et du coup, bah, j'ai écouté Sort le Popcorn et j'étais trop contente parce que c'est ça, quoi. Vous me parlez vraiment du film et en même temps, on rigole, il y a une bonne ambiance. Donc ça m'a fait plaisir. Je suis contente si on arrive à mixer les deux. Mm. On a moins de fou rire que dans Laisse-moi kiffer. Mais oui, l'idée, c'est que ce soit aussi un truc léger à écouter et qui vous mette de bonne humeur, quoi. Mais où on parle de ciné et de séries télé. Donc voilà, je suis contente.
Moi aussi, je suis contente. Merci beaucoup, Mimi.
Merci, Alix. On se retrouve dans 2 semaines.
Exactement.
Pour un nouvel épisode de Sort le Popcorn.
Oui.
Bisous, bye.
Bisous.
À bientôt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.